Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans notre balade musicale. J'espère que vous avez passé une très bonne semaine. Je suis ravi de vous retrouver, on est ensemble jusqu'à midi. Au programme, quelques magnifiques nouveautés pour un vrai concert de Noël sur IDFM Radio, avec des œuvres de Handel à Scarlatti, en passant par Jean-Sébastien Bach, Lotti, Franck Martin, Marcel Dupré, Jean-Jacques Grunewald et Charles-Marie Vidor. Et nous aurons la chance, pour nous parler de leurs enregistrements, d'accueillir deux invités. Beniamino Paganini, joueur de flûte traversière, claveciniste et chef de l'ensemble de musique ancienne Musica Gloria, nommé jeune musicien de l'année 2020 en Belgique. Et Karol Mosakowski, qui est depuis 2023 organiste titulaire du prestigieux grand orgue Aristide Cavalier Cole de Saint-Sulpice à Paris.
Vous êtes bien sur IDFM Radio.
Bonjour Beniamino Paganini.
Oui, bonjour Christophe.
Ravi de vous accueillir sur les ondes de IDFM Radio. Vous portez vraiment un nom prédestiné pour un musicien. Mais vous n'êtes pas un descendant de Niccolo Paganini, le plus grand virtuose du violon du 19e siècle, pas plus d'ailleurs que vous n'êtes violoniste. En revanche, vous êtes un polyinstrumentiste. Vous jouez du traverso, c'est-à-dire de la flûte traversière baroque, du clavecin, et vous êtes le chef de l'ensemble de musique ancienne Musica Gloria. Vous avez été nommé jeune musicien de l'année 2020 en Belgique, comme je le disais dans le sommaire de l'émission. C'est le troisième disque de votre ensemble Musica Gloria avec le label Etc. sous le titre Handel's Cendos and Thames. Quel est le programme de votre disque Beniamino Paganini?
Donc le programme, ce sont deux Cendos and Thames de Handel. Donc ce sont des pièces vocales avec aussi un ensemble instrumental anglicaine, donc en anglais. Sacré pour l'Église. Et entre ces deux Cendos Anthems, on a mis un concerto pour hautbois, aussi de Handel.
Et pourquoi Cendos?
Ce sont des œuvres magnifiques. Donc, ce sont des œuvres que Handel a écrites au début de sa carrière à Londres. Et c'était pour un certain Duke Cendos. Pour être très précis, il n'était pas encore Duke Cendos quand Handel l'a écrit, mais quelques années plus tard, il a eu ce titre. Et c'est pour ça que ses œuvres ont eu ce nom.
On va écouter l'ouverture de l'anthème numéro 10, « The Lord is my light ».
Thank you.
Handel, c'était l'ouverture de l'anthème numéro 10 dédiée au duc de Chendos par l'ensemble Musica Gloria, dont le directeur artistique Beniamino Paganini est notre invité en balade musicale. C'était au début de la vie de Handel qu'il a composé ces pièces que vous avez enregistrées, Beniamino?
Oui, c'était... Il n'était plus super jeune, mais quand même encore assez jeune, et c'était, il était encore en plein de, comment dire, en plein exploration de les possibilités de mettre du texte en musique. Et il y a une pièce, par exemple, qu'on va écouter plus tard, où il y a un tremblement de terre et aussi des éclairs, tonnerre, et il est vraiment très fort pour mettre ça en musique. Et aussi, il est encore très libre dans ses formes. Donc, plus tard, il va, dans ses compositions, presque toujours avoir des airs en da capo, c'est-à-dire, il y a un début, un, disons A, puis il y a un milieu et il y a le A qui est repris avec des ornementations. Mais dans les Chandos Anthems, il est encore beaucoup plus libre dans ses formes. Donc, en fait, il suit vraiment les textes qu'il a devant lui à mettre en musique.
Alors, ce que je voulais dire, c'est que c'était, au fond, parmi les premières années de sa vie en Angleterre, parce que il faut pas oublier que Handel était né en Saxe en 1685, et après avoir passé plusieurs années de formation en Italie, puis ensuite brièvement à Hanovre, c'est ensuite qu'il a rejoint l'Angleterre, où il va poursuivre l'essentiel de sa carrière, et va d'ailleurs devenir même sujet anglais.
Oui, 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 exactement.
Alors, on va écouter une seconde pièce qui est un air pour soprano accompagné par votre ensemble Musica Gloria. Maria Ladurner chantait le premier air de soprano de l'anthème numéro 10 de Handel, dédié à son commanditaire le duc de Chendos, avec l'ensemble Musica Gloria. Beniamino Paganini, notre invité, qui en est le chef, quels instrumentistes composent cet ensemble Musica Gloria?
Donc, tout d'abord, c'est moi-même et ma copine, Neil Verstommen, qui joue l'hautbois baroque.
Oui.
Nous, on est les deux guide de l'ensemble, disons. Et autour de nous, on a plusieurs instrumentistes de cordes et aussi de vent qui jouent beaucoup avec nous. Et en fait, on est un ensemble flexible parce que dans la période baroque, il y avait plein de différentes compositions de d'ensemble, donc il n'y avait pas tellement de combinaisons fixes. Et pour pouvoir jouer toute cette musique, on s'adapte en fonction du programme. Et par exemple, dans ce programme-ci, on était avec sept musiciens, donc de violon, alto, violoncelle, nous deux et aussi un basson et huit chanteurs.
Vous avez souhaité nous faire entendre et vous avez évoqué tout à l'heure une pièce où le chœur et l'orchestre laissent éclater de puissantes exclamations lorsque la terre tremble.
Oui, exactement. Donc c'est un mouvement que j'aime beaucoup. Il y a tout d'abord un petit morceau d'une minute plus ou moins, ou peut-être un peu moins que ça, que tout l'orchestre et le chœur sont ensemble sur un texte. Et après ça, il y a des notes répétées dans le chœur, dans les instruments, et qui représentent en fait un tremblement de terre. Et Handel a mis beaucoup d'indications pour que ça sonne vraiment comme un tremblement de terre. Et après ça, il y a les basses qui chantent avec la basse continue comme du tonnerre après les éclats en fait qui sont dans le chœur sur Lightning.
Fond, c'est une tempête musicale qui a donné à Handel l'occasion de tirer parti de son expérience théâtrale pour sa musique religieuse. Encore un très bel extrait de votre disque magnifique consacré à des pièces de Handel, commandé par un aristocrate anglais, le duc de Chandos. À côté de ces deux anthèmes, vous avez gravé un concerto pour hautbois et cordes et basse continue en si bémol majeur qui a été composé à la même époque, dans laquelle le compositeur reprend, je crois, des mouvements instrumentaux de deux autres Chandos anthems. Est-ce que c'était fréquent à l'époque de reprendre ce que l'on avait déjà écrit pour d'autres œuvres, voire même reprendre les pièces d'autres compositeurs, Beniamino?
Oui, tout à fait. En fait, la conception du plagiat, c'était tout à fait différent. Et Handel, notamment, il a beaucoup utilisé des mélodies de lui-même et aussi des autres compositeurs. Et l'idée dans le temps baroque, c'était pas tellement d'être le titulaire d'une idée, mais plutôt de montrer ce qu'on pouvait faire avec cette idée. Et c'est donc dans cette idée que Handel, en effet, dans ce concerto pour hautbois, cordes et basses continues, il a repris des mouvements des autres Chandos Anthems, parce qu'il y en a 11. Et donc, ça nous semblait parfait pour compléter ce disque, parce que c'est aussi un concerto de Handel qui n'est pas très souvent joué.
Eh bien, on va écouter le troisième mouvement de ce concerto qui contient un émouvant solo de hautbois par Nelly Vertomen qui partage avec vous la direction artistique de Musica Gloria. C'était l'andante du concerto pour hautbois, cordes et continuo de Handel par l'ensemble Musica Gloria dont nous recevions le chef Beniamino Paganini. Extrait d'un album de toute beauté, Handel's Cendos and Thames, paru sous le label Etc., que je conseille très vivement à nos auditeurs d'offrir ou de s'offrir sous le sapin pour ces fêtes de Noël. Merci beaucoup Beniamino Paganini.
Merci aussi, avec plaisir.
Bonne journée et joyeux Noël en Belgique.
Vous êtes bien sur IDFM Radio.
L'ensemble Le Concert Idéal, dirigé par la violoniste Marianne Picchetti, propose sous le label Evidence un programme construit autour du polyptyque du compositeur suisse Franck Martin. L'architecture du disque entremêle l'ancien et le nouveau avec beaucoup de bonheur. Le disque débute avec des arrangements d'un court extrait de la Passion selon saint Matthieu de Jean-Sébastien Bach, suivi par un Crucifixus d'Antonio Lotti.
Thank you.
Après ces deux pièces de musique baroque, de Bach et de Lotti, le concert idéal enchaîne avec une première pièce du polyptyque de Franck Martin, dont la genèse est pour le moins surprenante. En 1973, le grand violoniste Yehudi Menuhin avait commandé un concerto pour violon au compositeur suisse qui a évoqué ceux de Jean-Sébastien Bach tout en écartant de se mesurer à de tels chefs-d'œuvre. Franck Martin décide alors de s'éloigner de leur structure en composant une suite de pièces relativement courtes, une succession d'images qui seront regroupées dans Polyptyque, une œuvre inspirée par un petit polyptyque d'un peintre siennois du XIIIe siècle, Duccio, dont les 6 tableaux représentent la Passion du Christ. Écoutons un extrait de Polyptyque de Franck Martin, image des rameaux, par le concert idéal dirigé de son violon par Marianne Piketty, qui sera suivi par une fugue légère et virtuose du compositeur français du XVIIIe siècle, Nicolas Chédeville. Nous écoutions deux extraits du nouvel album de l'ensemble Le Concert Idéal, dirigé par la violoniste Marianne Piketty. D'abord, l'une des pièces du polyptyque de Franck Martin, qui a donné son titre à ce très bel album sorti sous le label Évidence, puis une fugue de Nicolas Chédeville.
Vous êtes bien sur IDFM Radio.
Nous avons maintenant le grand plaisir d'être en duplex avec Carole Mossakowski, un jeune organiste reconnu par tous pour ses qualités d'interprète et d'improvisateur. Bonjour Carole Mossakowski.
Bonjour Christophe, bonjour tout le monde.
Vous êtes né en Pologne il y a 35 ans et établi en France depuis 15 ans. Vous êtes lauréat d'un nombre important de concours internationaux, dont le Printemps de Prague et le Grand Prix de Chartres. En 2023, vous êtes nommé organiste titulaire du fameux grand orgue Aristide Cavalier-Cole de Saint-Sulpice à Paris, où vous prenez la suite de grands maîtres comme Charles-Marie Widor, Marcel Dupré, Jean-Jacques Grunewald et Daniel Roth, à qui vous rendez hommage dans votre nouvel album paru sous le label allemand Aeolus. Vous vous produisez dans des salles prestigieuses dans le monde entier et vous êtes invité par de nombreux orchestres sous la direction de chefs célèbres. Après avoir été artiste en résidence à Radio France pendant 3 saisons, vous occupez la même fonction à Katowice en Pologne. Vous êtes le premier organiste à remporter le prix de l'Orchestre des International Music Awards, ICMA. Vous êtes également compositeur. Et après avoir publié votre premier album en 2021 avec des œuvres de Bach, Mozart, Mendelssohn et Liszt, vous enregistrez le concerto pour orgue de Poulenc et la symphonie concertante du Belge Joseph Jongen avec l'orchestre philharmonique de Wroclaw. Et cette année paraît votre premier enregistrement avec le Cavalier-Cole de Saint-Sulpice. Une première question, Carole Mossakowski. Pourriez-vous nous décrire cet impressionnant grand orgue de Saint-Sulpice dans la plus vaste église de Paris?
C'est très difficile d'écrire un orgue aussi sublime, aussi extraordinaire. Mais en fait, en quelques mots, si je devais le décrire, ce serait surtout le mot poésie que je pense, en fait, parce que ce n'est pas si évident avec un orgue, mais celui de Saint-Sulpice, dès que vous jouez quelques notes, vous avez l'impression d'être enveloppé par les sons. Vous avez l'impression que le son vous fait un gros câlin, en fait, le son de l'orgue. Ce qui n'est pas si évident, parce qu'effectivement, quand on pense l'orgue à un instrument, on pense tout de suite à un instrument qui fait peur, qui a beaucoup de sons, le volume très important du son. Mais en fait, à Saint-Sulpice, l'orgue est vraiment très poétique, c'est sûr, et il est très précieux pas seulement pour les musiciens, mais pour la France, pour le monde, parce que il est dans son état d'origine depuis 1862. Ça veut dire que tous les grands compositeurs français qui jouaient aussi de l'orgue, donc Camille Saint-Saëns, César Franck évidemment, Gabriel Fauré, etc., etc., ils jouaient cet instrument, ils avaient ce son dans les oreilles, exactement le même son. Donc ça, c'est assez incroyable, parce que on a, quand on lit un texte, on lit une partition, c'est une chose, mais quand on entend vraiment la même chose, qu'eux, il y a 160 ans, c'est assez impressionnant. Et donc cette authenticité est extraordinaire à Saint-Sulpice, cette poésie, cette noblesse du son. Oui, donc c'est sûr que j'ai énormément de chance de pouvoir travailler sur cet instrument au quotidien.
Alors pour le public, il faut dire qu'il y a deux parties. Il y a une partie visuelle, le buffet, et puis l'instrument proprement dit.
Absolument. Le buffet, donc la partie visuelle, c'est quelque chose de très important dans un orgue parce que, contrairement à un piano, à un violon, c'est chaque fois différent. Et dans l'histoire, on prenait souvent les architectes pour imaginer ce buffet. Et à Saint-Sulpice, c'est le grand Jean-François Chalgrin, donc l'architecte qui a conçu l'Arc des Triomphes à Paris. Il a aussi imaginé le buffet d'orgue à Saint-Sulpice, qui est d'ailleurs très original. C'est-à-dire, si quelqu'un s'intéresse un peu à l'orgue, il sait tout de suite à quoi ressemble l'orgue de Saint-Sulpice.
Et quant à l'instrument, il comporte 102 jeux, je crois, 5 claviers et plus de 7000 tuyaux, ce qui est très impressionnant.
C'est exact, j'adore de me balader à l'intérieur de l'instrument parce que vous avez l'impression d'être dans une forêt des tuyaux. Parce que parmi ces 7000 tuyaux, il y en a ceux qui ont 1 ou 2 centimètres et ceux qui peuvent avoir 12 ou 13 mètres. On pourrait vraiment entrer à l'intérieur. Donc c'est vraiment très impressionnant et on est parfois obligé parce que s'il y a un tuyau qui est malade, qui ne sont pas bien, etc., il faut qu'on puisse intervenir.
Dans votre disque, vous rendez hommage, je l'ai dit, à quelques-uns de vos célèbres prédécesseurs, et on va commencer par Marcel Dupré. Vous avez gravé une œuvre de jeunesse de Marcel Dupré, qui est un élève de Charles-Marie Vidor. C'est un prélude de l'opus 7, qui a été composé en 1912, avant que son auteur ait remporté son premier Grand Prix de Rome, et avant même d'être titulaire ensuite du Grand Orgue de Saint-Sulpice.
En fait, d'une manière générale, je souhaitais rendre hommage effectivement à ces 4 derniers organistes compositeurs qui étaient avant moi à Saint-Sulpice, mais en choisissant le Zèvre qui les résume bien leur langage, leur personnalité d'une certaine manière, sans tomber dans les grands tubes comme dans le cas de Charles-Marie Vidor, ça serait facile d'enregistrer sa fameuse toccata ou le Zèvre qu'on connaît tous. Mais je me suis dit, on va chercher un peu plus loin, et j'essayais de trouver des œuvres qui correspondent vraiment bien aux personnalités de tous ces compositeurs et organistes. Et c'est pas si évident parce que moi-même, je compose, et je sais que parfois, oui, on signe parce qu'on a composé quelque chose, mais on ne s'identifie pas toujours avec ce qu'on avait composé, ce qu'on avait écrit, c'est le cas des écrivains, etc. Et donc, même un compositeur, il peut écrire des œuvres qui sont plus ou moins proches de lui-même, si vous voulez. Donc, voilà, c'était pour moi important de trouver, de rendre hommage par ces portraits musicaux de chacun de ces quatre.
Eh bien, on va vous écouter, Carole Mossakowski, dans le premier prélude de l'opus 7 de Marcel Dupré. premier prélude de l'opus 7 de Marcel Dupré par Carole Mossakowski, notre invitée en balade musicale, extrait de son premier album enregistré à la tribune du Grand Orgue de Saint-Sulpice à Paris, dont il est titulaire. Autre organiste de tout premier plan, Jean-Jacques Grunenwald, qui a un parcours tout à fait étonnant, puisque comme son père, il est devenu architecte DPLG après avoir suivi une formation aux Beaux-Arts parallèlement à ses études musicales au Conservatoire de Paris. N'est-ce pas, Carole ?
Tout à fait, c'est une personnalité qui me fascine, Jean-Jacques Grunenwald, car vous savez, la France au XXe siècle, c'est un pays des grands improvisateurs. Improvisateurs, évidemment, Charles Tournemire, mais puis Pierre Cochereau, qui a fait une carrière extraordinaire, l'Académie Notre-Dame de Paris. Mais en fait, en même temps, vous avez Olivier Messiaen, vous avez effectivement Jean Guillou, plein de grands compositeurs. Et Jean-Jacques Grunenwald, qui avait son style très particulier, très reconnaissable, je trouve. Et c'est pas si évident d'avoir vraiment sa propre personnalité musicale quand on est entouré de ce génie d'improvisation, de composition. Et c'est très personnel. Donc c'est assez fascinant pour moi de voir, de découvrir de plus en plus ce compositeur, organiste, d'autant plus qu'il y a, ces œuvres pour orgue ou orgue et orchestre qui sont inconnues, en fait. Ils méritent tout à fait d'être rendus.
Et il a une grande particularité, c'est qu'il est très connu auprès du public. Il a été très connu dans les années 1950-60 par ses nombreuses musiques de films, hein, pour des réalisateurs aussi célèbres à leur époque que Robert Bresson, Jacques Becker, notamment avec une musique sur les aventures d'Arsène Lupin, Henri Decoing, Alexandre Astruc ou Michel Deville.
Absolument, mais ce qui est fascinant, c'est que ce monsieur, il composait la musique du film, mais d'autre côté, il a improvisé pendant les offices d'une manière divine. En fait, on peut retrouver encore sur YouTube ou sur de vieux disques ces enregistrements live. Des improvisations, c'est quelque chose d'absolument extraordinaire. Alors, j'aime bien moi-même qui je suis aussi, je joue du jazz, je joue des musiques différentes. J'aime bien ce profil qui est très large, en fait, qui sort un peu de l'image qu'on pourrait avoir d'un organiste.
Alors, nous allons vous écouter, Carole, dans une pièce de Jean-Jacques Grunenwald, Préchaise, Prière, extrait de son diptyque liturgique de 1956. Comment peut-on caractériser cet extrait? Un moment de recueillement?
Oui, absolument. Après, on va écouter la fin de ce premier mouvement. Donc, avant, il y a une grande forme en arche, c'est-à-dire voilà où on monte en crescendo, on descend pour finir en presque hors du temps avec des sonorités qu'on appelle voix céleste de l'orgue. Ça, on dit déjà loin. On a l'impression d'un coup qu'on est sur une autre planète, dans notre monde.
Notre invitée en balade musicale, Carole Mossakowski, interprétait Prêches, l'une des pièces du diptyque liturgique de Jean-Jacques Grunewald, l'un de vos prédécesseurs, titulaire du grand orgue de Saint-Sulpice, extrait de votre nouveau disque, sorti sous le label Aeolus. Quand pourrons-nous venir vous applaudir à Saint-Sulpice, Carole ?
Très régulièrement, à vrai dire même... au moyen, chaque deuxième dimanche, je joue à Saint-Sulpice, ou lors des offices du dimanche matin ou dimanche soir, ou lors d'une audition, on appelle comme ça le petit concert d'une demi-heure de 45 minutes, qu'on donne à 16h à Saint-Sulpice.
Le dimanche
Oui, les dimanches, voilà. Je partage la tribune avec Sophie-Véronique Cochet-Chopin, qui est à Saint-Sulpice depuis 40 ans déjà. Ah. C'est arrivé en même temps que Daniel Roth, mon prédécesseur. Donc, cela me permet aussi voyager dans le monde, de donner des concerts et de partager la musique, une grande partie, la musique composée par les organismes de Saint-Sulpice. Parce que quand on a un héritage aussi important comme à Saint-Sulpice, ça vaut la peine, et je pense que c'est le rôle des organistes d'être un peu les ambassadeurs de cette musique. C'est rare d'avoir autant des œuvres musicales composées par des organistes dans une même église, en fait. C'est-à-dire depuis des siècles, on a notre musique à Saint-Sulpice, si vous voulez.
C'est exceptionnel.
Voilà, c'est exceptionnel, c'est la musique qui fait vibrer les pierres de cette église, et c'est vraiment made in Saint-Sulpice. Donc.
Avant de se quitter, on va vous écouter dans l'une des trois nouvelles pièces de Charles-Marie Vidor, titulaire du grand orgue pendant 64 ans. Je répète, 64 ans. Voilà quelqu'un qui n'a pas pris sa retraite à 62 ans. Et qui était en plus une star admirée par le tout Paris et par des étrangers célèbres, n'est-ce pas, Carole?
Absolument. Moi, quand j'étais adolescent, avec beaucoup d'émotion, je lisais les mémoires de Ignacy Jan Paderewski, donc le grand pianiste polonais. Là, c'était vraiment une star mondiale du piano. Mais en même temps, il était le premier ministre. Bref, il était très engagé, voilà, dans la politique. Et dans ses mémoires, il décrit son séjour à Paris où il rencontre Charles-Marie Vidor. Donc, il décrit sa rencontre, c'est un homme charmant, etc. Mais il dit que tout Paris s'est retrouvé dimanche pour écouter Charles-Marie Vidor. Donc c'est assez extraordinaire.
On va vous écouter dans une pièce de Charles-Marie Vidor, classique d'aujourd'hui. C'était la musique de Charles-Marie Vidor, l'un des plus fameux organistes français, par notre invité en balade musicale, Carole Mossakowski, extrait de son très beau disque sorti sous le label allemand Eolus, qui ravira tous les amateurs d'orgue. Merci beaucoup, Carole Mossakowski.
Merci beaucoup, je suis très heureux de participer à cette émission. Merci beaucoup.
Nous aussi heureux de votre participation. Très bonne journée à vous et joyeux Noël.
Joyeux Noël.
Vous êtes bien sur IDFM Radio.
Composé en 1724 par Alessandro Scarlatti, le Stabat Mater fut exécuté chaque vendredi saint à l'église San Luigi de Naples, jusqu'à ce qu'une nouvelle composition du Stabat Mater, commandée à Pergolèse en 1736, la relègue injustement dans l'oubli. L'œuvre de Scarlatti est d'une grande variété de styles d'un couplet à l'autre. Thibaut Noailly, qui dirige du violon l'ensemble Les Accents, en donne une lecture épurée où la chaleur des cordes se mêle harmonieusement au timbre des deux chanteurs, Emmanuel de Negri, soprano au lyrisme ardent, et Paul Figuier, contre-ténor élégiaque. Nous retrouvons Emmanuel de Negri en compagnie de Paul Figuier dans deux autres duos de toute beauté, extraits du Stabat Mater de Alessandro Scarlatti avec l'ensemble Les Accents, dirigé par Thibaut Noailly. Nous les écoutons l'un après l'autre sans rajouter de paroles.
Thank you.
Nous venons de refermer notre balade musicale avec deux merveilleux duos, extraits du Stabat Mater de Alessandro Scarlatti, avec la soprano Emmanuelle de Negri et le contre-ténor Paul Figuier, accompagnés avec beaucoup de délicatesse par l'ensemble Les Accents, dirigé du violon par Thibaut Noailly. Un disque absolument remarquable, sorti sous le label Alpha. Un parfait cadeau pour Noël, à écouter sans modération. Tous ces musiciens seront en concert à Neuilly-sur-Seine, demain dimanche 21 décembre à 16h, en l'église de la Bienheureuse Isabelle, métro Pont de Neuilly, ligne 1. Ce concert de Noël est gratuit, en accès libre, dans la limite toutefois des places disponibles. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain dimanche 11h pour une nouvelle balade musicale. Merci à Francky à la technique et restez à l'écoute des programmes de IDFM Radio.